Tous les jours, de lundi au vendredi, à partir de 11h sur Canal FM pour le débat.
Oh, shalom.
Production généralement de type artisanal.
C'est chemin faisant que les gens se retrouvent pour parler de ce qu'ils ont démarré, alors qu'il y a eu des vacances.
C'est pour soulager les femmes dans tous les secteurs, pas seulement que les portefeuilles.
Mais... Oui, oui, je suis d'accord. Mais j'ai dit pour le moment, il n'y a pas un vide, quoi.
On attend, et à une période de l'année, ça reprend, rebelote l'année prochaine, rebelote, rebelote.
Par rapport à ce dossier-là, franchement.
Moi, je n'ai pas rencontré quelqu'un quand même.
Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épargner, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Nous sommes le mardi 24 octobre 2023, il sonne 11h et à vous et vous qui êtes déjà disposés à domicile, au bureau, seul ou en groupe pour écouter le Club de la Presse, nous vous disons merci et bienvenue dans cette émission que vous nous écoutiez sur les antennes de Canal FM à Lomé ici ses environs ou encore par le biais de Radio Courtoisie à Dapan, Radio Sama FM à Bagan-Niamtougou, Radio Daoul à Bassin, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio La Paix à Takpamé, Radio Lumière à Néron ou dans le monde entier par l'intermédiaire des médias numériques, Radio Le Bénin et Bonne Radio, les applications Canal FM ou encore la chaîne YouTube. Nous sommes en connexion de par le monde. Et ceci c'est grâce aux techniciens Thomas et Tech aussi d'Atevi et Jero Dakucha qui viennent de nous rejoindre. Deux confrères journalistes dont Eric Hugues Pakoudjo Johnson du journal L'Union. Bonjour.
Bonjour Sass, bonjour chers confrères, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM, chers invités, bonjour.
Et le deuxième confrère c'est Sam Djobo Anas Teterou de l'Éveil de la Nation. Nyore.
Ya Babun Kozo.
La FIA.
Kokarni.
À la FIA.
À la Nabiani.
À la FIA.
Ah non.
On continue.
Ça ne doit pas être à la FIA tout le temps.
Ah, et tu sais pourquoi le train n'est pas arrivé à Sokoré?
Non, pas du tout.
Une anecdote, hein.
Oui.
Quand les Allemands et les Français avaient commencé à bâtir le chemin de fer, on était arrivé à Blita. Et puis un matin, deux cotocolis se saluaient sur les rails à Blita. Le train a quitté Lomé.
Ouais.
Nos parents, tes parents se saluaient jusqu'à ce que le train passe par Sokoré, les écrase. Et c'est ça qu'on a dit. Si jamais le train va jusqu'à Sokoré, on n'aura plus de Kotokoli. Ça, c'est pour la bonne
nouvelle. Ouais, c'est vraiment une anecdote. Donc, bonjour Sass, bonjour aux confrères Eric, bonjour aux invités. Bonjour aux fidèles auditeurs et auditrices de la nouvelle génération.
Merci. Au menu aujourd'hui, naturellement, mardi, nous allons parler culture, art et artisanat. Nous allons revenir sur l'ouverture du tribunal militaire hier avec cette affaire ministère public contre un monsieur co-accusé dont le nom qui est beaucoup plus cité. De là, nous allons continuer avec la justice militaire, la justice civile, hein, avec deux invités à nos côtés. Madame Toyi Ablavi, bonjour. Vous êtes assistante juriste à la maison de justice de Baguida avec votre chef, Monsieur Aïka Foli Kofi. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Sass.
Vous êtes médiateur conciliateur à la maison de justice de Baguida. Après avoir parlé de la justice militaire, nous allons également parler de cette justice civile dans la maison de justice. Mais nous sommes dans la saison des conférences des forum sur la paix et la sécurité, mais également nous annonce un forum qui va se tenir sur la jeune fille, c'est dans les prochains jours. Nous avons voulu en savoir davantage et avoir à nos côtés dans ce bureau une jeune belle dame, Samira Amadou, bonjour.
Bonjour monsieur.
Tu vas bien?
Oui, bien, merci.
Donc, tu es là pour nous parler de ce forum de la jeune fille.
Oui,
qui va s'ouvrir dans quelques jours.
Oui, effectivement.
Merci beaucoup. Et bien, à
elle
vous.
Est, elle l'est même.
Ah bon?
Elle est jeune, non?
Oui, oui. Elle est jeune et belle.
Heureusement pour toi.
Merci. Et comme c'est une tradition, nous démarrons toujours le Club La Presse avec une pensée du jour dont nous inspirons. Et aujourd'hui, nous revisitons celui que nous avons évoqué hier, Georges Bernard Shaw, qui a écrit « Méfiez-vous de la fausse connaissance. Elle peut être plus dangereuse que l'ignorance. » Encore une fois, méfions-nous de la fausse connaissance. Elle peut être plus dangereuse que l'ignorance. Mais avant les échanges proprement dits, Eric et Sam, deux journées mondiales à évoquer. Alors comme ça, je commence par Anast Terou. Nous sommes le 24 octobre et il y a 78 ans, le 24 octobre 1945, était signée la charte, plutôt entrée en vigueur, la charte de l'Organisation des Nations Unies, d'où cette journée des Nations Unies. Alors Sam, quand on parle des Nations Unies, les débats peuvent aller dans tous les sens. Il y a certains qui adorent, d'autres moins. Alors qu'est-ce que toi tu nous dirais à l'occasion de cette journée des Nations Unies?
Alors 78e anniversaire de l'entrée en vigueur des Nations Unies, moi je pense que ce regroupement, de, si on peut l'appeler ainsi, un des États, il fallait le créer parce qu'à un moment donné, le constat était avéré qu'il y a des injustices au niveau mondial auxquelles il faut que les États se joignent pour pouvoir trouver des solutions. Mais chemin faisant, ça reste un peu le débat d'aujourd'hui. Les Nations Unies, beaucoup font le procès aux Nations Unies d'avoir pas réussi sa mission, notamment quand on prend certains conflits qui naissaient là sur le continent africain et puis le continent, le monde entier d'une manière générale, on se rend compte que les Nations Unies n'ont pas réussi à atteindre les objectifs qu'elles se sont assignés dès les premières heures de leur création. Et donc aujourd'hui, il y a une célébration et moi je pense que ça sera l'occasion de reposer les bases des Nations Unies et de mener la réflexion, pousser la réflexion loin quant à ce qui concerne les voies et moyens qu'il faut rechercher pour redonner à ce regroupement-là ses lustres d'antan.
Merci. Il y a 78 ans, il n'était que 50 États a signé, ratifié la charte des Nations Unies. Maintenant, 2023, on doit approcher les 200 États. Ça veut dire que le débat a beau être animé sur les Nations Unies, mais je ne connais pas encore de pays qui se soit retiré. Mieux, le débat, c'est qu'on fasse des réformes et qu'on élargisse le Conseil de sécurité, pourquoi pas à des États africains. Eric, toi, avec toi, nous allons plutôt nous rappeler une journée mondiale. Tu connais la poliomyélite?
Oui, bien sûr.
Tu n'en souffres pas, Dieu merci, ni tes enfants, mais tu connais des gens qui en souffrent
autour de nous, évidemment.
Eh bien, la poliomyélite, cette maladie invalidante, paralysante et très contagieuse, c'est également le 24 octobre, journée mondiale de lutte contre cette maladie. Eh bien, Eric, nous le vivons chaque année, le Togo qui est dans les pays qui sont arrivés à maîtriser la polio, et il n'y a plus de nouveaux cas, mais pour conforter cette position, le Togo a introduit la vaccination systématique dans le calendrier, ce qui fait que si nous nous respectons bien et si nous faisons vacciner nos enfants de 0 à 5 ans, on peut dire que le petit Togolais est à l'abri de cette maladie.
Oui, le Togolais a réussi quand même à éradiquer cette maladie, tout simplement parce que les autorités l'ont voulu. Et c'est ce que nous disons tout le temps, il faut de la volonté politique quand même pour arriver à des résultats aussi probants. Aujourd'hui, je pense que, comme tu l'as déjà annoncé, il y a plus de nouveaux cas de polio dans le pays. Et justement parce que il y a cette vaccination obligatoire pour tout enfant qui naît dans notre pays. Et je crois que il y a aujourd'hui, il faut pas le nier, des réticences au niveau de certaines communautés qui estiment que la vaccination n'est pas forcément une bonne chose pour les enfants, mais plutôt ça contribue à les anéantir à peu près. Et donc, ces communautés-là font des pieds et des mains pour que leurs enfants ne soient pas tout de suite vaccinés. Je ne sais pas, cette polémique a eu lieu quand même un peu loin de chez nous, hein, au Nigeria, tout récemment, où toute une partie de ce pays-là a refusé carrément l'introduction de certains vaccins sur leur territoire. Et donc, je crois que ici, nous avons la chance que cela n'existe pas forcément, nous ne le savons pas, avec cette flambée des réminiscences religieuses, etc. Et donc, je crois que nous avons cette chance et il faudrait qu'on en profite à jamais. Ça, je vais aussi profiter de cette occasion pour parler un peu des Nations Unies, parce que tu as évoqué cela. C'est très important. Aujourd'hui, on a tout comme l'impression que les Nations Unies ne sont que, ne constituent qu'une communauté de 5 pays, c'est-à-dire les 5 pays.
Membre permanent du Conseil de sécurité.
Du Conseil de sécurité qui gère et qui dirige les Nations Unies. Ce qui fait que les autres pays ne sont que des faits-valoir où on leur demande, voilà, il y a une loi votée parce que ça va vous arranger, mais derrière, les gens ont d'autres calendriers. Et je crois qu'aujourd'hui, les critiques qui vont à l'endroit des Nations Unies, c'est surtout qu'il y a certaines puissances économiques surtout et militaires qui dirigent forcément les Nations Unies. Je crois que il faudrait que l'on repense toutes les structures des Nations Unies afin que cela bénéficie à toute la population humaine sur la planète.
Nous disions que à l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945, il n'y avait que 50 États membres, mais aujourd'hui, l'ONU compte 193 États membres sur tous les continents. Tous les États de tous les continents sont membres, et Eric en parlait, les 5 grands membres permanents du Conseil de sécurité qui imposent un peu leur volonté.
C'est pas un peu, ils imposent leur
volonté. Sam Diabon, tu nous rappelles la mémoire, tu nous rafraîchis la mémoire.
Oui, on a les États-Unis, la Russie, la Chine,
la France,
la Grande-Bretagne. C'est-à-dire que ce que Eric dit, il ne pense pas si bien dire, mais au même moment, les 5 pays dont il parle, dont il est question, même ces 5 pays entre eux ne s'entendent pas. Oui. Quand on prend la question de l'Ukraine, on a l'URSS qui est la Fédération de Russie qui est pratiquement isolée, les États-Unis, la France et les autres qui sont avec l'Ukraine. Donc les 5 membres permanents, même entre eux, ne s'entendent pas. D'où la nécessité vraiment de poser les vraies bases et de réfléchir.
Les Nations Unies, on peut descendre chez nous ici, l'Union africaine et puis la CEDEAO. Est-ce que nous, les États de tous les continents, surtout, est-ce que nous, les peuples, est-ce que nous sommes vraiment satisfaits du fonctionnement de ces organisations mondiales, continentales et sous-régionales lorsque nous allons aborder le forum de l'ONU sur la paix et la sécurité? Vous nous en direz. Mais pour après terminer avec la polio, attention, les jeunes couples, faisons vacciner les enfants de 0 à 5 ans pour mettre à l'abri de cette maladie invalidante nos enfants. Si vous avez un parent ou un voisin qui souffre de ça de son enfance, vous sauriez pourquoi il vaut mieux être prudent. Heureusement que notre jeune et belle dame Samira, tu n'es pas invalide, tu n'as pas été atteinte par la polio.
Non.
Eh bien, dis merci à tes parents qui t'avaient vacciné, qui t'avaient mis à l'abri.
D'accord, je vais le leur.
Eh bien, tu es jeune, tu es belle, tu es dans ce studio avec nous. C'est pour nous parler de ce forum de la jeune fille qui en sera à sa 3e édition. Ce sera, je crois, du 27 au 29
octobre
prochain.
Oui.
Eh bien, quelles sont les structures qui organisent ce forum?
Déjà, c'est l'ONG Coup de Pouce, chaîne de l'espoir, Nord-Sud.
qui organise le forum. C'est une ONG qui a été créée en France en 2009 et implantée au Togo depuis 2012 par l'artiste chanteuse Christelle Johnson. Donc nous avons des représentations à Lomé. Et
Christelle Johnson, c'est notre sœur du Togo.
Ouais.
Mais elle a créé son ONG en France, mais elle a rapatrié ici. Elle est venue en octobre, le mois du consommé local. Eh bien, disons-lui merci pour ça.
Elle était là bien avant, elle est repartie et elle est revenue. Donc je disais que l'ONG est représentée au Togo. Et le Forum de la jeune fille est à sa troisième édition. Mais cette édition sera un peu plus large, un peu plus grande, un peu plus ouverte à tout le monde. Il y aura des étudiants, des apprentis, des coiffeuses. Il y aura vraiment de tout le monde. Parce qu'on veut que la cible soit diversifiée pour faire passer mieux le message. Des activités qu'il y aura au cours du forum, il y aura des panels, des débats, des formations, des conférences. Il y aura des expositions dans des stands. Il y aura des OSC, qui vont, c'est-à-dire des organisations de la société civile. Parce qu'on a remarqué que les jeunes ne s'intéressent pas à la vie associative, ce qui est très dommage parce que...
Vous-même, vous en êtes consciente?
Oui.
Donc toi-même?
Oui.
Ah ok, très bien.
Non mais elle fait déjà partie.
Heureusement, moi maintenant ça va un peu.
Voilà.
Ça va un peu. Alors que pour être compatriote, pour, il suffit pas seulement d'avoir des diplômes, de travailler, de faire de l'argent, mais il faut contribuer au développement de son pays. Et pour ça, la vie associative est très capitale. On acquiert dans la vie associative de l'expertise, de l'expérience, des compétences même à faire valoir dans son domaine professionnel. C'est sur ce chemin-là qu'on veut ramener les jeunes. Donc, on veut ramener nos pères, quoi. Il y aura des lycéens. Il y aura des lycéens, des... Là, actuellement, même, nous avons beaucoup d'écoles qui sont avec nous. Lycée Nikon Akwe, Kondovia Kopé, Adido Gomé, Dranawe. Donc, ces lycées-là vont faire venir les
sauf
élèves.
Sauf lycée 2 février.
2 février.
Qui a été fermé.
Quand les bâtiments seront réhabilités, on va l'intégrer de nouveau.
Bon, à la 4e édition, alors.
Eh bien, donc, ces panels, ces débats, ces expositions, ces échanges, tout ça va tourner autour de quel thème central, Samira?
Le thème central de cette année est encore un peu en discussion. Mais là, nous avons retenu la cohésion sociale. Cohésion sociale.
La cohésion sociale avec les jeunes filles de tout degré, les élèves, les étudiantes, les apprentis dans différents ateliers, également, pourquoi pas, des femmes journalistes, jeunes filles journalistes.
Oui, bien sûr.
Nous en avons une ici très dynamique. Regarde derrière la vitre. Oui, tu la vois? Très bien. Eh bien, ce forum va se dérouler où, Samira?
À CTF Togo 2000.
Le et ce sera du 27?
Du 27 au 29 octobre.
Alors, est-ce que toutes les jeunes filles qui nous écoutent peuvent s'inviter à partir du 27 octobre à votre forum?
Oui, bien sûr. L'inscription est ouverte à tout le monde et gratuite.
Et si...
Et pas que pour les jeunes filles.
Oui.
Pas que pour les jeunes filles. Actuellement, même, nous avons des milliers d'inscriptions, dont au moins 40%, 35% de jeunes hommes. Donc, le forum est à tout le monde.
Le forum est à tous les jeunes.
Oui, tous les jeunes.
Aussi bien les jeunes filles que les jeunes hommes. Oui. Et pourquoi pas également leurs parents, leurs papas,
si,
comme Eric, comme
Sam.
Merci. Donc, Samira Madou qui nous parle de ce forum de la jeune fille qui va s'ouvrir au CETEF du 27 au 29 octobre. Œuvre de l'ONG. Tu nous rappelles, Samira?
Coup de pouce, chaîne de l'espoir Nord-Sud.
Coup de pouce, chaîne de l'espoir Nord-Sud de notre sœur compatriote Christelle Johnson. Oui, Eric?
Alors, Samira, qui sont les panélistes au cours de votre forum?
Je vais commencer déjà par Christelle Johnson elle-même. Il y aura aussi, nous espérons, d'ADD. Qui vient de sortir
notre ADD
ici. Qui vient de sortir de ce studio.
Très bien.
Il y aura des jeunes comme Cavalici. Il est créateur de contenu. On veut, par exemple, pour ce débat-là auquel il va participer, on veut confronter la jeune génération à l'ancienne génération.
Tu connais l'ancienne génération?
On en a une idée.
Si, Samira, tu envoies ici. Qu'on ne sait pas, Eric, moi-même, notre invité, Monsieur Aïka.
Non, moi je suis dans la génération intermédiaire.
Oui, quand ça t'arrange. Merci beaucoup, mais Samira, tu restes à nos côtés. Tu sais qu'à partir de 12h, nous allons ouvrir les antennes. Les auditeurs pourront appeler sur le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez poser des questions directement à Samira pour qu'elle nous en dise davantage. Pendant ce temps, nous ouvrons la page culture, art et artisanat, si Eric le veut.
Je le veux
bien. Tu le veux bien. Mmh. Eh bien, commençons par cette exposition avec une création collective entre le Togo, la France et l'Italie qui va s'ouvrir à l'Institut français du Togo dans quelques jours.
Oui, c'est un spectacle de danse, de chant et l'art oratoire. Hein. Mm-hmm. Et donc, ce spectacle, c'est une création de groupes de trois pays, comme on l'a cité, la France, l'Italie et le Togo. Et donc, c'est à la suite d'une résidence culturelle que trois groupes se sont entendus pour créer quelque chose, parce qu'ils se disent que plus nous nous écartons de nos cultures, plus l'humanité n'arrive pas à s'entendre sur le minimum. Mm-hmm. À quoi ça sert aujourd'hui toutes ces guerres, tous ces conflits qui sont autour de nous, alors que nous aspirons tous à la paix sur la terre. Et donc ces trois groupes-là ont réussi quand même à créer un spectacle qui s'appelle Équin. Équin, ça veut dire chez nous en hébreu racine, mm-hmm. n'est-ce pas? Et donc c'est pour dire que, au fait, nous pourrons tous être ensemble et avoir une racine pour l'humanité qui porte l'arbre généalogique. Et donc je crois que ces trois groupes-là vont nous montrer ce qu'ils savent faire en danse, ce qu'ils savent faire en chant, ce qu'ils savent faire en parole, en propos, pour quand même nous aider à nous unir. L'objectif final de ce spectacle-là, c'est de nous faire voir toute la culture que nous avons sur ces trois pays-là, qui peuvent se ressembler, qui peuvent être diversifiés, mais qui disent quand même la même chose autour de la paix et de vivre ensemble.
Merci. Des artistes venus du Togo, de la France et de l'Italie qui se sont retrouvés dans une résidence au cours de laquelle ils ont produit ce spectacle. Et comme tout spectacle nous interpelle et nous parle, eh bien ceux qui iront à ce spectacle le 27 octobre prochain s'entendront s'interroger d'où l'on vient, où l'on va, où on veut aller, et surtout, est-ce qu'on peut y aller ensemble, ou autrement dit, est-on capable de prendre?
Oui.
Eh bien, pour ne pas dire en plus, pour ne pas en dire plus, rendez-vous le 27.
Le 25.
Hein? 25 plutôt, ouais, c'est-à-dire à partir de demain,
demain,
à l'Institut français du Togo. De ce spectacle, ouvrons-nous sur le Miato, le marché international de l'artisanat du Togo, qui s'ouvre également demain,
oui,
le 25 octobre prochain. L'Union nous en parle aussi, Eric.
Oui, ça court du 25 octobre au 5 novembre 2023. Et donc, déjà, il y a eu un lancement officiel par le ministre en charge de la promotion de l'artisanat. Mm-hmm. Et donc je crois que
développement à la base.
Mm-hmm. Et je crois que aujourd'hui cet événement devient quand même un événement important dans la vie de nos artisans. Quand on parle de l'artisanat, c'est et tout ce que nous arrivons à produire, tout ce que nous arrivons à faire de nos mains et qui porte tout ce que nous sommes, en quelque sorte, comme le dit un grand écrivain. Et donc, je crois que le Miato va représenter le Togo dans toute sa diversité, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Et donc, toutes les cultures, tout ce que nous, les artisans, fabriquent, seront exposés à cette rencontre de Miato 2023. Et aujourd'hui, il y a comme par hasard, puisque c'est une programmation qui ne date pas d'aujourd'hui quand même, parce que on est
à la troisième édition.
Donc le Mali, qui sera le pays hôte. Donc, vous connaissez un peu ce que regorge ce pays-là aussi en termes de production artisanale. Et donc, le Mali sera fortement représentée à ce Miatola, avec des productions qui certainement ne sont pas très loin de ce que nous faisons ici, mais qui vont apporter quand même un plus, hein, qui vont apporter un plus à
ce que... Merci. La troisième édition du marché international de l'artisanat du Togo, qui s'articule autour du thème « L'artisanat à l'ère de l'autonomisation de la femme et du numérique, enjeux et défis ». Sam Diobo, comme l'écrit, comme le rappelle l'Union, le Miato se veut un événement culturel, hein, commercial, hein, international, qui met en lumière le riche patrimoine artisanal du Togo, ainsi que les talents créatifs des artisans locaux et internationaux. Le Mali comme pays invité d'honneur, le Miato qui veut mettre en lumière les produits et les services artisanaux. Il veut également démontrer le potentiel de l'artisanat pour la création d'emplois et la génération de richesses. L'artisanat est un grand pourvoyeur d'emplois.
Bien entendu, l'artisanat est un grand pourvoyeur d'emplois. Et le Miato, je crois, il doit être à la troisième édition. Mmh. Et depuis que la première édition a été lancée, l'événement est en train de prendre une amplitude africaine. Et moi, je pense que depuis la première édition jusqu'à la troisième édition, il était important pour moi, les organisateurs doivent marquer un break, chemin faisant, pour voir si, depuis que les éditions ont été lancées, la vie même des artisans togolais a changé. Est-ce que nous-mêmes, dans nos habitudes, est-ce qu'on a inclus ou bien on a incorporé l'idée de valoriser les artisans togolais? Moi, je pense que si des événements de ce genre ne peuvent pas contribuer à améliorer la situation des artisans, je crois que ça n'a pas de sens. Depuis que ça a commencé, ça fait 3 ans. Les artisans, nous-mêmes qui sommes ici. Non,
il se tient en 2 ans. Hein. Le Miato, c'est chaque 2 ans.
Ça veut dire qu'on est en temps vers 6 ans. Mm. Depuis 6 ans, qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans la vie des artisans togolais? Alors que lorsqu'on parle du Miato, on parle des artisans togolais, c'est un événement qui doit être intrinsèquement lié au consommé local. Parce que le consommé local, c'est les artisans qui doivent... C'est le fruit du labeur des artisans togolais qui doit être reversé dans le consommé local. Mais nous-mêmes, combien sommes-nous à consommer le riz de Kovier si ce n'est pas pour aller acheter les riz thaïlandais? Donc moi, je pense qu'il faut aller au-delà du cérémonial, au-delà de l'événementiel, pour valoriser beaucoup plus les artisans en organisant un programme bien spécifique de communication et de sensibilisation. Parce qu'il y a beaucoup d'artisans qui ne sont pas connus. Quand les gens se retrouvent peut-être au palais des congrès, après, sur le plan intérieur ou bien sur le plan local, qu'est-ce que le Togolais de Saint-Cancy ou bien de Dangpen peut retenir d'un artisan qui confectionne peut-être du café ou qui fait dans des tissus de manière locale? Qu'est-ce qu'il peut retenir? Donc moi, je pense qu'il faut aller au-delà de l'événement et avoir une politique ou une vision derrière cette activité pour valoriser effectivement les artisans togolais.
Pour dire que c'est nous qui devons accompagner ce mouvement en valorisant les créations de nos artisans. Et les artisans, ils sont variés, hein, comme menuisier, ébénistier, comme maçon, comme forgeron, comme, je ne sais pas, couturier, esthéticien, artiste de la chanson. Si nous commençons par consommer les productions de nos artisans, nous allons les aider à mieux vivre et à créer plus d'emplois et apporter la croissance économique.
Oui, il y a juste un souci par rapport à nos productions. C'est la labellisation de nos produits. Il faut qu'on en arrive là forcément. Parce que en réalité, si les gens sont tentés de consommer toujours ce qui vient de l'extérieur, d'abord, il faut voir le coût. Hein, et aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter un produit fait de main par un artisan togolais par rapport à un produit qu'un Chinois amène sur le terrain. Hein, l'écart, hein, le gap est trop grand. Vous voyez
le gap qualité-prix.
Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe avec nos Nana Benz. C'est elles qui vont aller chez les Chinois pour chercher, pour commander maintenant des produits de, excusez-moi le terme, mais de piètre qualité. Parce que nous n'avons plus cet tissu-là, hein, qui était prisé de par le continent autour du Togo. Parce que les gens venaient acheter ces produits-là vendus par les nanabenz et c'était de la bonne qualité. Aujourd'hui, vous n'avez plus ça. Les Chinois sont là, ils produisent et c'est nos nanabenz même elles-mêmes parce qu'elles n'arrivent plus à vendre ce qu'elles avaient. Elles sont obligées de suivre le marché. Et donc, on a ça. On l'achète à combien ? 1100 francs le pagne. Hein? Alors que dans le temps, pour acheter ce produit, il faut débourser au moins 30 000, au moins 40 000. Voyez-vous ? Donc, il faut qu'on arrive à labelliser nos produits pour
labelliser nos produits également, conforter notre patrimoine. Cela demande que chacun y aille. Hein, avec sa foi et sa conviction, mais tout cela ne peut prospérer que dans un climat de justice, hein, où quand quelqu'un estime que ses intérêts sont lésés, hein, il va à la justice et on lui dit « Oui, monsieur, vous avez raison » ou « Malheureusement, vous avez tort », n'est-ce pas, monsieur Aïka ? Cela nous sert de transition vers la justice civile et spécifiquement aujourd'hui, nous allons parler des maisons de justice. Alors, dites-nous d'abord, monsieur Aïka, c'est quoi une maison de justice dont un certain nombre sont installés dans nos communes?
Oui, une maison de justice, c'est une structure de proximité.
Mm-hmm.
Donc, rapide, confidentielle et gratuite.
Mm-hmm. C'est une structure de proximité.
Un souci avec votre micro?
Oui, approcher un peu plus. Donc, vous nous rappelez un peu la définition de ce que c'est la maison de justice, monsieur Aïka.
Oui, une maison de justice est une structure de proximité rapide, confidentielle et rapide.
Mm-hmm. Alors, qui est-ce qui siège au sein de la maison de justice?
Au sein de la maison de justice, il y a le médiateur et puis chez Noa Babida, l'assistante juriste est une dame. Donc, le médiateur siège avec l'assistance d'un assistant juriste.
Alors, si je comprends bien, la différence entre la justice traditionnelle telle que nous la connaissons et la maison de justice, c'est que à la justice, au palais de justice, c'est le juge qui siège, alors que la maison de justice, c'est plutôt un médiateur, un conciliateur. Merci. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, une maison de justice?
Une maison de justice, dans un premier temps, est habilitée à faire connaître aux populations leurs droits, ses devoirs, puis leur fournir des informations relatives aux procédures diligentées devant les cours et tribunaux.
Autrement dit, comme votre maison est située à Baguida, les habitants de Baguida et alentour, s'ils ont des soucis, des préoccupations, ils peuvent vous saisir. Et quelle décision allez-vous rendre pour l'un ou l'autre?
Bon, à la différence de la justice traditionnelle, bon, une maison de justice ne rend pas de décision.
Mm-hmm.
Une maison de justice concilie. Donc, par la médiation, on concilie les parties en litige.
Mm-hmm.
On ne rend pas de décision dans une maison de justice.
Ok. Mais quand l'une partie n'est pas satisfaite de votre conciliation?
En cas de désaccord, on les oriente vers la justice classique.
Mm-hmm. Donc on vous saisit, disons que pour parler en français facile, vous rendez une décision, enfin une conciliation à l'amiable. Si les deux parties sont satisfaites, tant mieux. Mais si une partie n'est pas satisfaite, il lui est loisible de continuer. Eh bien, maintenant, comment saisit-on une maison de justice?
On saisit une maison de justice par une requête. Mais la requête peut être écrite ou bien orale.
Mm-hmm. Mm-hmm. Une seconde, s'il vous plaît. Petit souci technique que nous allons régler rapidement. Tu n'as pas vérifié ça avant. Eh bien, nous revenons toujours avec M. Aïka Foli Kofi, qui est médiateur, conciliateur à la maison de justice de Baguida, dont il est venu nous parler ce que c'est la maison de justice, la différence entre la maison de justice et la justice classique telle que nous la connaissons. Comment on peut saisir la justice, la maison de justice, c'est ce que vous nous rappelez, M. Aïka, la procédure pour saisir la maison de justice.
Par requête.
qui doit être écrite ou bien orale.
On peut écrire ou bien vous saisir
oralement.
Oralement. Eh bien, alors, vous rendez une conciliation, mais en même temps, vous êtes médiateur et conciliateur. Dites-nous quelle est la différence entre la médiation et la conciliation.
Donc, entre la médiation, je peux dire que nous sommes en face d'une situation comportant des arguments contradictoires, mais menant à une même conclusion. Par exemple, au cours de la médiation, le médiateur procède par tous les moyens pour rapprocher les parties en conflit, pour qu'ils arrivent à s'accorder. Et avec cela, mais la solution proviendra des deux parties elles-mêmes. Bon, si le médiateur fait feu de tout bois et que les parties n'arrivent pas à s'entendre, il glisse sur le terrain de la conciliation. Au cours de la médiation, le médiateur ne fait pas de proposition. Lorsque le terrain de la médiation n'est pas favorable, il glisse sur le terrain de conciliation. Alors, il fait des propositions qui ne s'imposent pas aux parties, quitte à eux de les accepter.
Alors, la maison de justice, vous agissez depuis quand?
Depuis le
à Bagdad, du moins.
À Bagdad, depuis le 1er juin 2018.
2018, oui. Déjà 5 ans d'existence. Est-ce qu'il y a affluence? Est-ce que les gens de Bagdad viennent vous saisir?
Les gens de Bagdad viennent nous saisir. Ils viennent pour nous saisir afin de médiation ou bien afin de renseignement. Et l'assistant fait des consultations juridiques et leur donne des orientations.
Merci. Justement, Madame Toya Blavi, rebonjour.
Rebonjour.
Le micro. Vous êtes assistante juriste à la maison de justice de Bagida. Quels sont les avantages de la création des maisons de justice comme chez vous à Bagida?
D'accord. Et les avantages, avant d'en arriver là, je dirais que vous aviez demandé si c'est les gens de Bagida qui viennent. Au fait, nous sommes dans la préfecture du Golfe. Donc tout le Golfe. Tout le Golfe peut venir à Bagida.
Ah, c'est pas uniquement les habitants de Bagida.
Non, c'est le Golfe. Nous sommes compétents dans la préfecture où nous sommes implantés.
Donc nous-mêmes de Sagbado, à Flau Sagbado,
oui, si vous êtes dans le Golfe, vous pouvez venir. Et bien, vous pouvez venir. Toute personne qui est de la préfecture du Golfe peut saisir la maison de justice de Bagida.
Maintenant, les avantages.
Les avantages de création, c'est que il y a l'éloignement. Maintenant, on n'est plus obligé d'aller obligatoirement au tribunal. Donc, il y a le coût.
Donc, la maison de justice se rapproche des citoyens.
Se rapproche des citoyens, des populations. Il y a aussi la barrière juridique. Les technologies juridiques où on dit, ah, avec vous, vos termes de droit là, à la justice, souvent, il y a cette barrière de langue où la population profane ne comprend rien. Dans les maisons de justice, la langue que vous voulez, c'est telle que nous parlons. La plupart du temps, même les saisines se font en langue vernaculaire. Et nous les traduisons, nous écrivons, c'est nous qui les traduisons. Donc, ce qui fait que les parties peuvent librement saisir dans n'importe quelle langue. C'est gratuit, il n'y a pas de paiement, il n'y a pas de frais de saisine.
Et il n'y a pas de frais d'avocat surtout.
Non, il n'y a même pas d'avocat là-bas, étant donné que c'est les médiations et conciliations. On n'a pas besoin d'avocat là-bas. Donc, c'est un peu ça, je dirais, que géographiquement, c'est rapproché. Au niveau des finances, il n'y a plus de problème pour le paiement. Et puis, la barrière juridique, la terminologie juridique, ça aussi s'est levé.
Vous parlez en français facile ou bien dans la langue facile des parties.
Vraiment.
Oui, mais monsieur Aïka, quels sont les sentiments qui animent les usagers qui recourent à la maison de justice?
C'est souvent la satisfaction parce que nous programmons nos dossiers par semaine, du lundi à vendredi. Trois dossiers par jour et nous arrivons au moins à régler 8 amiablement, c'est-à-dire avec conciliation, avec accord. Ça dépend de la manière dont on conduit les débats. Même quand les gens viennent avec des mécontentements, par la médiation, nos techniques, nous arrivons à les calmer. Et ils repartent souvent conscient.
Mais le droit, la justice sont toujours saufs.
Oui.
Merci beaucoup. Alors, Madame Toyi Ablavi, quels sont les rapports que vous pouvez établir entre la maison de justice, les autorités traditionnelles et les officiers de police judiciaire?
Oui, rapport y en a, parce que les autorités traditionnelles, les OPJ et les maisons de justice travaillent de concert. Puisque des fois, nous sommes saisis pour des cas où nous ne sommes pas compétents. Mm-hmm. Si c'est les chefs traditionnels qui sont compétents, nous référons les parties vers eux. Si c'est la police ou la gendarmerie, nous en faisons autant. Et c'est la même chose de leur côté. Lorsqu'ils sont saisis, et la plupart des affaires que nous traitons très souvent nous sont référées par les officiers de police judiciaire. Très souvent, c'est ça. Donc, c'est les rapports que nous entretenons. Des fois, nous faisons aussi appel aux chefs traditionnels comme personnes ressources. Lors des audiences, lorsqu'on a besoin de certaines explications, nous leur faisons appel pour nous éclairer, pour éclairer la médiation, ainsi de suite.
C'est un peu ça. Merci. Alors, ce que j'ai pu comprendre, c'est que les maisons de justice sont des structures de proximité qui offrent des services gratuits à la population. Il y a facilité de vous saisir, soit par écrit ou bien de façon verbale. Le médiateur conciliateur, qui n'est pas magistrat, mais prend son rôle à cœur et travaille à ce que entente intervienne entre les parties en conflit. Mais s'il y a une partie qui n'est pas satisfaite, elle peut toujours saisir les autorités autrement plus compétentes, et vous travaillez en concertation avec les autorités traditionnelles locales et les officiers de police judiciaire. Oui, Eric Johnson.
Alors, comment vous consignez les accords entre les parties? Alors, est-ce que vous avez des mesures coercitives en cas de remise en cause de ces accords pourtant signés par les parties?
Non, monsieur Aïka, d'abord, comment est-ce que vous consignez vos accords de conciliation ou bien de médiation?
Tout à fait. Nous écoutons attentivement d'abord les deux parties.
Oui.
Le demandeur d'abord, ensuite le défendeur. Alors, au cours de la conciliation, mon assistante prend note de leur déclaration. Moi-même, j'en prends. Alors, si vous les écoutez attentivement, déjà, vous notez les points d'accord et de désaccord. Et ça vous permet de leur donner des exemples du vécu quotidien pour les amener à s'entendre. Donc, s'ils arrivent à s'entendre, nous constatons l'entente là par un PV de conciliation. Mais en cas de désaccord, il y a un PV de non-conciliation.
Très bien. L'autre volet de la question, si vous estimez qu'il y a accord, que vous établissez un PV, que les deux parties signent, et que demain, une partie remet ce PV-là en question, comment réagissez-vous?
Il ne doit pas le remettre en question.
Mais c'est l'homme, M. Aïka, ça peut y arriver.
Parce que nous, une fois que la médiation est terminée, constatée par un PV de conciliation, notre rôle n'est pas encore terminé. Il y a le suivi jusqu'à l'épuisement total du différend. Alors, si l'une des parties n'arrive pas à s'exécuter, l'autre se réfère à nous et on leur prodigue des conseils. Mais nous ne sommes pas dotés de moyens coercitifs. C'est ça notre mal des fois. Même vous invitez les gens à venir, ils refusent de venir. Or, si c'est la justice classique, on peut décerner un mandat d'amener pour l'obliger à s'exécuter.
Merci. Sam Diabo?
Moi, je pense que c'est une très bonne chose de mettre sur pied ce genre de structure.
Les maisons de justice.
Dans les préfectures. Ça permet, comme l'a expliqué madame, de rapprocher les populations de la justice, ne serait-ce que pour essayer de régler à l'amiable certains différends qui naissent ça et là. Et si vous constatez, le plus souvent, à la tête des maisons de justice, c'est des personnes d'un certain âge, des gens qui ont une certaine expérience de la vie, qui sont à la tête des maisons de justice. Cela suppose que c'est des gens dotés de sagesse, qu'ils ne peuvent pas véritablement se tromper dans le règlement des conflits. Maintenant, moi, ma question, il y a déjà les chefs cantons, les chefs de village qui jouent pratiquement le même rôle. Quand il y a des différends dans les communautés, c'est eux qui prennent le bâton de pèlerin. Maintenant que l'État a décidé de mettre sur pied les maisons de justice, est-ce qu'il n'y a pas doublon? Quelle est la place qu'occupe la maison de justice par rapport à la chefferie? classique dans le dispositif pour la recherche des solutions aux problèmes.
Monsieur Aïka ?
Oui. Vous voyez, le début de toute chose est difficile. Bon, quand nous avons commencé, de nous-mêmes, nous avons été aidés par le chef du village d'Ave Pozo. Alors nous avons fait une tournée de prise de contact avec les chefs traditionnels. Ce n'était pas facile, parce que nous avons constaté qu'il y a un conflit de compétences. Là, nous avons rendu compte à la hiérarchie. On a organisé des séminaires d'explication et ils sont bien informés.
Les chefs traditionnels.
Donc, nous leur avons dit que notre travail ne fut pas dire que nous allons empiéter sur leur domaine de compétences. Et chez nous, par exemple, si tu es saisi d'une affaire, après la qualification, tu dois savoir que tu es compétent ou bien tu n'es pas compétent. Donc, si tu n'es pas compétent, tu diriges la personne vers l'autorité compétente. Aller à la justice, aller chez le chef traditionnel, aller au parquet. C'est ce que nous faisons.
Merci. Madame, un complément d'information. Madame Toy.
Oui, la question où monsieur demandait, en cas de non-exécution des procès-verbaux, je voudrais compléter ce que le médiateur venait de dire. En fait, selon les textes, lorsque les parties à un accord ne s'exécute pas, la partie engagée ne s'exécute pas, le procès verbal est homologué par le tribunal pour faire exécuter de force. C'est un peu ça. Nous, à la maison de justice, comme l'a dit le médiateur, on n'a pas de force coercitive parce que notre objectif, c'est la paix et la cohésion sociale. Et on ne peut pas obliger les parties à le faire. Donc, c'est au niveau de l'homologation du PV maintenant qui fait exécuter de force l'accord.
Donc, votre PV peut être homologué
par le tribunal, par le président du tribunal, en cas de non-exécution par une partie.
Merci. Une question que un auditeur nous envoie. Monsieur Aïka, comment avez-vous été choisi comme médiateur, conciliateur?
Bon, suivant notre organisation, les médiateurs peuvent être les anciens magistrats, les préfets, les anciens greffiers. C'est ça.
Les donc, des magistrats à la retraite.
Les commissaires.
Des commissaires de police ou bien d'anciens préfets, des gens qui ont eu à frotter avec la justice ou les populations. Merci, il est 11h47. Auditeurs, notez, si vous avez des préoccupations sur les maisons de justice, vous allez entrer en scène incessamment dans 13 minutes. Le temps que nous passions de la justice civile
à la justice militaire,
dont c'est l'actualité depuis hier. Vision d'Afrique qui écrit tribunal militaire, la première audience de la chambre criminelle ouverte hier. Les travaux qui continuent aujourd'hui. Eric, ton journal aussi nous en parle. Quand l'Union écrit, Actu Express, c'est Actu Express qui écrit à la page 5 que c'est un procès inédit qui s'est ouvert hier devant la chambre criminelle du tribunal militaire mise en place depuis quelques mois au Togo. Officiellement, il s'agit de l'affaire ministère public contre Songine et Ndoukoua et autres, mais le nom qui revient le plus, c'est le général Félix Abalo Kadanga qui est prévenu, poursuivi pour complicité d'assassinat, complicité d'entrave au bon fonctionnement de la justice et complot contre la sécurité intérieure de l'État. Donc le dossier en essence, il est lié à l'assassinat dans la nuit du 3 au 4 mai 2020 du colonel Toussaint Bitala Madjoulba, alors chef corps du 1er bataillon d'intervention rapide, le BI, Félix Abalo Kadanga, mis aux arrêts depuis le 12 janvier 2023. Il comparait avec d'autres camarades. C'est l'affaire qui défrait la chronique. Sam Diobo.
Oui, vous savez que le général Félix Kadanga, ce n'est quand même pas n'importe qui. Il a été chef d'état-major général de l'armée togolaise et puis le BIR.
Pendant sept ans.
Et le BIR, c'est un camp qu'il connaît très bien pour avoir été chef corps là-bas. Et aujourd'hui, quand on parle de ce procès, on dit ministère public contre, on donne un autre nom.
Oui.
Mais en réalité, le nom qui fait de ce procès l'actualité, c'est le général Félix Kadanga. Rappelez-vous, dans le procès Kwacha Nyasingbe, ils étaient nombreux à être accusés, mais c'est le nom de Kwacha qui était en vedette. Donc c'est le cas ici aussi. Moi, je pense qu'il est important pour les Togolais de connaître la vérité autour de cette affaire. Comment ça s'est passé qu'un chef corps d'un camp d'élite, qui était le bataillon d'intervention rapide, puisse être assassiné dans son propre bureau, nuitamment, par des individus jusque-là inconnus, parce que, quoi qu'on dise, le général Katanga et les autres jouissent encore de la présomption d'innocence. C'est jusqu'au jour où le procès sera rendu qu'on saura effectivement qui a fait quoi dans cette affaire. Donc, il faut tirer chapeau déjà à l'État togolais qui a décidé de mettre sur pied ce tribunal pour qu'enfin la liberté, la vérité jaillisse dans cette affaire. Mais à partir de ce procès, on peut tirer des enseignements. Ça veut dire que tout le monde doit se mettre à la tête qu'on peut être fort une fois, mais on ne peut pas être fort tout le temps. Parce que personne...
Surtout si on s'accorde des libertés par rapport à la justice.
Voilà. Donc, des gens qui ont pris la liberté d'écraser ou de piétiner la liberté des autres, il faut qu'ils se gardent en tête qu'à tout moment, ils peuvent être rattrapés par leurs faits et gestes. Et aujourd'hui, avec l'opérationnalité de ce tribunal militaire, ça veut dire que même les corps habillés, tous les corps habillés qui ont l'habitude de brimer les autres, ou des gens qui ont l'habitude d'exercer des actes de torture ou des actes de brimade sur des autres citoyens, ils doivent se poser plusieurs questions avant de poser leurs actes, parce que désormais, rien ne sera plus comme avant. Avec ce tribunal militaire, même les citoyens peuvent porter plainte contre des corps habillés, et c'est en cela que c'est intéressant. Et moi, je pense que si ce tribunal n'avait pas existé, il fallait le créer, et donc chapeau au chef de l'État.
Eh bien, on l'a créé, et il a ouvert, c'est ouvert depuis hier. Il y avait quelques inquiétudes, mais la journée d'hier a été, la journée d'aujourd'hui est, demain, jusqu'à ce que nous connaissions le verdict. Eric Johnson,
je vais un peu appuyer
Sam Diabro,
ce que Sam vient de dire par rapport au pas d'autorité que les gens ont et qui l'exercent mal sur
des fois en abus
leurs compatriotes. Et je voulais de lire une pièce théâtrale de Marivaux qui s'appelle L'île des esclaves. Et cette pièce nous présente une île grecque où il y a un patron et son subordonné et qui était dans un bateau qui s'est cassé contre l'île. Et arrivé sur cette île-là, mais on lui dit, en tant que patron, il a commencé par donner des ordres, va faire si on lui dit non. Ici, tous ceux qui étaient chefs de l'autre côté deviennent les subordonnés. Maintenant, il revient à son subordonné de lui donner des ordres. Imaginez un peu la suite. Celui-là qui a été tout le temps brimé, c'est lui qui doit laver ceci, c'est lui qui doit nettoyer cela, il devient chef. Et on dit, sur cette île-là, tous ceux qui arrivent là avec l'idée de continuer par exercer leur autorité deviennent plutôt ceux-là sur qui on va exercer une nouvelle autorité. Alors, ça, c'est pour dire tout simplement que lorsque vous avez un pan d'autorité, il faut l'exercer humainement. C'est-à-dire que c'est ce que la nature vous donne aujourd'hui, mais sachez que ça peut changer du jour au lendemain. Alors ça, il s'est passé un truc hier à ce tribunal-là, nous n'avions pas accès en tant que journaliste, mais j'ai eu vent de trucs qui m'a fait tiquer. Le général Katanga qui dit qu'il a été maltraité, vous imaginez ça à l'ANR. Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Donc, c'est pour vous dire que, véritablement, ce tribunal militaire est là pour régler beaucoup de problèmes. Et Sam l'a dit, tout Togolais peut saisir ce tribunal-là quand même pour faire valoir ses droits.
Et je rappelle juste qu'il y a quelques jours, quand il lançait le tribunal militaire, le garde des Sceaux, puisque Okuvia-Gbetome rappelait que les militaires sont des citoyens comme tous les autres, ils sont justiciables, ils sont passibles de tout ce qu'on peut leur reprocher. L'essentiel, c'est qu'ils bénéficient d'une justice équitable Et hier, hein, au tribunal militaire, nous apprenons que il y a le procureur militaire, mais il y a un jury composé de généraux, dont la plupart sont à la retraite. Mais le sieur Sanguine et les autres, ils ont leur avocat. Le général Abalo Kadanga et les co-accusés, ils ont également leur avocat. Alors, présageons que les débats soient vraiment ouverts, libres et directs, que chaque parti puisse parler directement, que les avocats aient la liberté de défendre leurs clients. Et si Abalo Kadanga dit aujourd'hui qu'il a ou qu'il aurait été maltraité à Rennes, eh bien, on va creuser cela. On va creuser cela pour savoir si c'est vrai ou c'est faux. Et l'essentiel, c'est que...
Et justement, pour la journée d'hier, il était le seul à passer. On n'a pas encore eu les autres co-accusés.
Non, je pense que Eric a tiré une bonne conclusion. Parce que aujourd'hui, celui que les gens pensaient être intouchable, on se rappelle encore dans la nuit du 14 avril, je ne sais plus, au domicile de Pacha Niassigbe, les gens ont raconté, les témoins ont raconté ce qui s'était passé.
Le 9 avril 2009.
2009, c'était lui le
tout. C'était Kadanga qui avait conduit l'opération d'arrestation de Pacha Niassigbe.
Voilà, donc aujourd'hui, s'il dit qu'il a été maltraité, cela confirme le fait qu'il faut que chacun garde à l'esprit qu'on peut être fort à un moment donné. Parce que nous-mêmes, quand Dieu nous a créés, vous naissez, vous grandissez, mais à un moment donné, sous le poids même de l'âge, il y a vos muscles, même vos os qui ne répondent pas.
Qui vous lâchent.
Donc, quand c'est comme ça, il faut aussi se dire que quand vous avez la possibilité ou l'opportunité d'exercer un pouvoir, il faut l'exercer avec humanisme et avec humanité, de sorte à ce que le jour où la roue de l'histoire va tourner contre vous, que les gens vous traitent au moins décemment.
Merci. Mais, Eric, ce que tu nous révèles là, c'est d'importance. Si Kadanga se plaint qu'il a été maltraité à Liner, c'est que Liner, à Liner, on continue à maltraiter. Combien de fois le nom de Liner n'a pas été cité dans les affaires de torture? Dans l'affaire dite de Pacha, Liner avait été accusé de torturer les gens plusieurs fois. Alors, comment se fait que malgré toutes ces accusations, à Liner, on continue toujours de torturer les gens?
Mais nous ne pouvons pas savoir.
Il faut interpeller l'autorité qui a mis en place Liner.
Nous constatons au cours des procès de ceux qui sont passés par là quand on torture les gens à l'ANR. Et évidemment, c'est encore une preuve que le général Katanga vient de nous donner. Mais attention, ceux qui font ça, ceux qui torturent les citoyens, que vous soyez civil ou militaire, à l'ANR, est-ce qu'ils pensent quand même qu'ils pourront aussi être à la place de Katanga un jour?
Oui.
Il faut qu'ils commencent par réfléchir à ça. Parce que le général Katanga, tout puissant en son temps, était même accusé de torturer les gens, il faut le dire. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, c'est lui qui se plaint de cela. Ça veut dire que ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas l'infliger à son prochain, tout simplement.
Non, ça, je crois qu'il faut... Quand on parle de torture, je pense que c'est à plusieurs niveaux. Il y a des tortures physiques, il y a des tortures de tout genre.
Oui, nous l'englobons tout simplement.
Oui, oui.
Quand il a dit torture, il n'a pas dit physique, morale.
Non, mais quand on parle de torture, le citoyen lambda voit en même temps des sévices corporels qu'on inflige à un détenu. On peut-être par des pressions, pas forcément porter la main sur quelqu'un, mais par exemple, on peut empêcher quelqu'un de
donner. C'est pourquoi j'ai souhaité que l'affaire là soit creusée.
Et moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que tous les efforts et tout ce que l'État fait pour moderniser le corps habillé, je ne pense pas que ces pratiques puissent encore avoir cours. Parce que déjà, quand vous arrivez dans les gendarmeries et les postes de commissariat, quand on détient quelqu'un, il y a une affaire qui arrive là-bas. Déjà, car 8 heures, on demande qu'on vous défère. Devant le parquet.
Oui.
Or, ces pratiques-là n'avaient pas cours par le passé.
Merci.
Donc, moi, je pense que Déjà, quand on voit ce qui se passe dans les gendarmeries, dans les commissariats, on peut avoir plus
en même temps,
Parce que les gens ont été à l'école, comme Kadaga a ses avocats.
Il peut sûrement ça pour le problème. Et on va
c'est
causer.
Pour s'attirer la pitié.
Mais c'est pour rappeler que
c'est pour s'attirer la pitié.
Devant la justice,
c'est pour s'attirer la pitié aussi, c'est possible.
Pourquoi pas, mais les débats vont nous éclairer. Mais c'est juste rappeler que devant la justice internationale, le crime, plutôt la torture, est estampillé crime imprescriptible. Ça, il faut que chacun le sache. Qu'on soit puissant ou faible aujourd'hui, il faut qu'on le sache.
De toute façon, s'il a été torturé, il aura des noms.
On le saura.
On ne pourra pas en débattre,
mais revenir rapidement avec le forum sur l'appel à la sécurité que nous avons abrité, enfin, Lomé a abrité il y a quelques jours, et sur lequel reviennent deux journaux. Vision d'Afrique, qui nous parle de l'édition inaugurale de Lomé Peace and Security Forum, une rencontre de solutions pour bâtir des institutions fortes et l'état de droit en Afrique. L'Union aussi nous rappelle l'article « La transition politique et gouvernance en Afrique, les Africains se découvrent au Lomé Peace and Security Forum » pour dire que à l'ouverture, enfin, au cours de ce forum, on a vu le ministre de l'Intérieur du Niger, le général Toumba, qui a dit par exemple que son pays, le Niger, est disposé à rencontrer la CEDEAO et toute bonne volonté pour s'expliquer. Et puis, à l'ouverture des travaux, donc au nom du chef de l'État, la Première ministre Victoire Tobenga Dogbe a réitéré l'engagement du Togo à toujours privilégier les voies pacifiques de dialogue, de concertation et de médiation dans la gestion et la résolution des conflits. Et pendant 3 jours, comme l'Union l'écrit, les Africains, du moins de l'Ouest, ont eu à dire, à s'exprimer sur la situation politique, économique et sociale des pays de la zone et sur les actes des organisations sous-régionales, continentales et mondiales. On ne pourra pas en débattre avant la pause, mais sûrement que les auditeurs pourraient nous y ramener s'ils le souhaitent. Eh bien, un moment de pause, puis nous renouons avec les auditeurs.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous avons rappelé la journée mondiale, enfin la journée des Nations Unies, la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite avec notre jeune amie Samira. Nous avons parlé du forum de la jeune fille qui va s'ouvrir le 27 et se clôturer le 29 octobre. On a parlé des maisons de justice, on a parlé également de la justice militaire, puis on a terminé avec le rappel de le Lomé Peace and Security Forum. À présent, la parole est à vous. Premier auditeur, bonjour.
Oui, monsieur Sass, bonjour.
Oui, Sylvain Agbayi.
Oui, je voudrais savoir la différence entre le SCRIC et l'ANR. Là. Est-ce que les deux sont identiques?
Le SCRIC et ANR.
Oui.
Ok, je vais
dire. Pour madame Maison de Justice, là.
Oui.
Depuis 2018, est-ce que leur attente est comblée?
Pardon?
Je voudrais savoir s'ils ont des résultats
satisfaisants.
Oui, satisfaisants.
Ok.
Depuis 2018.
Ok, merci beaucoup.
Oui, merci.
Eric, je te prie, la question SCRIC ANR, tu te prépares à nous répondre à cela. Mais nous prenons le tuteur suivant. Bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va chez nous, c'est monsieur.
Basile.
Oui. Ok. Allez-y, Basile.
Ah, moi, je voulais poser la question ce qui se passe pour le procès. Là.
Oui.
Est-ce que ça veut dire que ce procès est plus risqué, bien plus important que celui-là qui se déroule en Guinée à l'heure actuelle?
Basile.
Ça à huis clos.
Ok, pourquoi ce procès à huis clos à Lomé alors que en Guinée c'est public et retransmis sur les médias? Merci beaucoup.
Ah, ils vont transmettre sur les médias.
Non, je rappelais juste que en Guinée le procès est public et retransmis sur les médias alors qu'au Togo c'est à huis clos, c'est ça? Ok.
Oui, c'est ce qu'il demande.
Ok. Merci beaucoup.
Enfin,
je ne sais pas si Sam ou Eric, l'un ou l'autre, va tenter de vous répondre. Troisième auditeur, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Le plateau.
Armand.
C'est Armand, oui.
Oui.
J'aimerais revenir un peu sur les maisons de justice.
Oui.
J'aimerais demander, est-ce que ces maisons sont reparties sur toute l'étendue du territoire?
Mm-hmm.
C'est bon, un projet pilote okay. dans le premier temps.
Merci donc, beaucoup. Autre auditeur? Oui, bonjour. Allô?
Allô?
Oui, monsieur Garo.
Allô, monsieur Garo.
Oui.
Oui, nous écoutons.
Vous m'entendez?
Oui, oui, allez-y.
Bon, voilà. Moi, c'est un conseil que je voulais donner. Vous savez, dans la vie, même Jésus-Christ a le pouvoir de rester, mais il a accepté de partir. Donc, vous savez ce qu'on doit faire dans la vie. Il ne faut pas habiller le corps. Il faut habiller le nom. Un jour, le corps sera enterré. Le nom va rester. Regardez Mandela, Lumumba, etc., etc. Donc, je voulais dire à notre cher ami Katanga, voilà que ça lui servira de leçon. Merci, bonne journée.
Merci. Et ça, que ça sert de leçon à vous, monsieur Garo, et à nous aussi. Le suivant, bonjour. Oui, ami en ligne, bonjour.
Oui, monsieur Sass, bonjour.
Oui.
C'est Commis.
Commis.
Oui.
Allez-y.
J'aimerais poser deux questions à nos invités.
Mm-hmm.
Quels sont les types d'affaires que nous devons apporter à la maison de justice?
Mm-hmm.
Et quelle est la différence plutôt entre votre fonctionnement et la gendarmerie ou soit les commissariats?
Mm-hmm.
Voilà. Maintenant, sur mon second sujet, c'est la question de la justice militaire.
Oui.
Oui, vos confrères donnaient tout à l'heure le conseil à ceux qui ont toujours, par exemple, à ce jour, le pouvoir de savoir les utiliser.
À bon escient.
Voilà. Mais avec ce qui se passe, moi, je pensais que pour pouvoir dissuader et désarmer ces gens-là, c'est rendre ce, comment dirais-je, ce règlement public
mm-hmm.
pour que les gens suivent en direct comment les choses se font pour qu'ils se désarment totalement
mm-hmm.
la manière dont ça se fait, c'est comme si on privilégie encore certains Togolais par rapport à d'autres
mm-hmm.
et comme si vous êtes regardé, c'est comme ça nous allons vous traiter. C'est comme si on n'est pas prêt pour rentrer dans la marche démocratique.
Mmh, okay.
Et pour finir, j'ai appris qu'il y a des conditions pour pouvoir participer. Si quelqu'un d'entre vous a eu l'information, qui nous donne les conditions là. Merci.
Merci beaucoup. Encore une ou deux questions pour laisser le temps aux invités de vous répondre. Il est déjà en ligne, l'auditeur. Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur Sat.
Oui.
C'est pas toi qui n'a dit ça, monsieur.
Nous écoutons.
Pour la question des maisons de justice, là. Depuis 2018, ça a dit, je n'avais jamais entendu parler.
Mm-hmm.
On peut rester, mais pas où on est sorti, n'est-ce pas?
Je
crois que je n'avais pas parlé aujourd'hui de passage de.
Non, je vous reçois vraiment mal. Le son est entrecoupé. J'ai pas bien saisi. Il est là ou bien il est parti? Ok. Alors, nous allons prendre le dernier auditeur. Bonjour.
Allô, Charles. Bonjour. Eric. Bonjour. Bonjour à tout le monde.
Oui, Didier.
Oui, je voulais répondre d'abord à Sam que toute torture est interdite. Il faut pas qu'il habille torture psychologique, interdite quoi. Toute torture est interdite.
Oui.
Le fait de dire qu'il y a torture, quoi, là, c'est qu'il entend d'habiller, que torture est interdit.
Mm-hmm.
Moral ou quoi, c'est interdit. Secondo, je voulais aussi venir sur un cas, là. Et le pouvoir, là, moi, je pense que ceux qui sont en train de faire, c'est-à-dire cinéma, c'est-à-dire blablabla, on a déjà suivi ça. Le cas du, ceux qui sont un peu plus violents, ils vont comprendre le cas du colonel Dua. On n'a jamais su pourquoi on a jugé le colonel Dua. On nous a dit qu'il a tué seulement un avocat, mais tout le monde sait ce qui s'est passé réellement pour qu'on longe. C'est là même ceux qui sont en train de nous faire là-bas. Ils ont encore le truc public, tout le monde saura qu'effectivement ce qui s'est passé. Et puis ce qui me fait rire, je me fais sourire depuis que l'histoire a commencé. Vous avez vu, M. Sass, Au moment des élections, il y avait un monsieur qui était dans une 4K avec tiré sur un jeune mécanicien. Les gens sont venus défendre le monsieur là sur nos scènes-là. Les gens sont venus défendre, même Sam. Ils ont tellement défendu le monsieur que c'est comme un ange. Mais quand on parle de lui aujourd'hui, je me dis que vraiment que j'ai raison, que moi le pays là, vraiment, il faut qu'on laisse ce pays-là. Je vous remercie.
Merci. Ce qu'il faut retenir, c'est que la roue de l'histoire tourne et ça peut aller dans tous les sens. Souffrez que nous arrêtions ici pour laisser un minimum de temps à nos invités de répondre à vos questions. Commençons par la justice, la maison de justice. Monsieur Aïka, on voudrait savoir si les maisons de justice existent un peu partout au Togo.
Oui, au départ, nous étions 4 maisons de justice. Mm-hmm. Bagida, Goinvé, Senkassé et Dapaon.
Mm-hmm. Et maintenant?
Maintenant, nous sommes au nombre de 17, dont 16 sont opérationnels. Mm-hmm. Donc, ce qui a motivé les décideurs à en créer, c'est que chaque trimestre et annuellement, nous faisons des rapports d'activité. Mm-hmm. Et c'était intéressant. Par nos activités, nous sommes arrivés à désengager les tribunaux de petites affaires.
Mm-hmm. Donc, c'est qu'il y a... Actuellement, il y a 16 maisons de, 16 maisons de justice qui sont opérationnelles sur 17 créées. Oui. Ensuite, quels sont les types d'affaires qui sont rapportées à vous?
Il y a les litiges fonciers, mm-hmm. mais les litiges fonciers sont rares chez nous. Mm-hmm. La pension alimentaire, réclamation des créances, troubles de voisinage, etc.
Alors, différence de fonctionnement entre vous et les brigades de gendarmerie, commissariat de police?
Donc, c'est une question de compétence. Par exemple, si la gendarmerie est saisie d'une affaire, qu'après étude du dossier, ils constatent qu'ils ne sont pas compétents, donc ils la dirigent vers nous, mm-hmm. et réciproquement aussi.
Mm-hmm. Merci. Dernière question. La maison existe depuis 2018, mais un auditeur dit qu'il vient de la prendre à présent.
Ah bon?
Ça veut dire que
nous avons
problème d'information.
Nous avons fait des sensibilisations.
Mais il faut continuer, monsieur Aïka. Ouais. Merci. Maintenant, j'en viens à vous, Eric et Sam Diobo. Sam Diobo, d'abord, tu as écouté l'auditeur Didier qui semblait dire que il y a quelques années, des gens, dont toi-même, vous défendiez Kadanga lorsqu'il était accusé d'avoir tiré sur un enfant.
Non, je crois que Didier, s'il m'écoute très bien, il faut qu'il se ressaisisse. Parce que c'est comme il est en mission pour décourager certains journalistes qui viennent faire les débats ici. Je le suis tous les lundis. Et quand il appelle, c'est pour invectiver des journalistes. Il n'a qu'à arrêter ça. En 2017 ou 2018, je ne sais plus de quelle époque il parle, mais s'il m'a écouté sur une chaîne, qu'il dise nommément et qu'il donne la date. Parce qu'à l'époque de ces faits-là, je me rappelle que le général Yark, à l'époque ministre de la Sécurité, était apparu sur les écrans de la TVT où il a expliqué qu'effectivement le général Katanga était sur le terrain le jour-là. Et donc, moi, je ne vois
et
pas
quel journaliste... c'était pour inspecter le dispositif.
Mais c'était pour inspecter.
Et la question que nous, les journalistes, nous lui avons demandé, qu'est-ce que le général, chef d'état-major général des forces armées togolaises...
Est-ce que c'est lui qui doit aller
et donc, ou de manifestation politique?
Donc, Didier arrête de mentir. Sam Diobo n'a jamais soutenu cet argumentaire ou n'a jamais défendu le général Katanga.
Merci.
Première chose. La deuxième chose, vous avez parlé, il y a un auditeur qui a demandé la définition de SCRIC et de ANR.
Oui.
Vous avez réservé ça, Eric. Mais
ok, à l'un ou à l'autre.
Donc, SCRIC, c'est le service central de renseignement criminel. Mm-hmm. Et l'ANR, c'est l'Agence nationale de renseignement. Et je crois que le SCRIC est logé dans les locaux de la gendarmerie, mais l'ANR n'est pas logé là-bas.
Mais elle est logée où?
Bon, ça, il faut qu'on se renseigne pour le savoir.
Merci beaucoup. Encore un moment, Sam Diobo, l'auditeur tient à rappeler que toute torture est interdite, qu'elle soit psychologique, physique ou autre.
Oui, mais ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Tout ce qui est torture est interdit. Mais au Togo, quand on parle de torture, parce qu'il y a dans un passé récent, les gens ont été torturés. Mais là, personne n'avait parlé de torture psychologique. Parce que les gens... Il y a même une association togolaise de lutte contre la torture.
Avec notre ami Acholé.
C'était avéré. Lorsqu'on est passé au procès, on a vu des gens. Aujourd'hui, peut-être c'est une anecdote, mais on parle de quelqu'un qui a été assassiné, qui a été fusillé dans son propre bureau. Il y a encore la famille du colonel Madjoulba. Il y a encore ses enfants. Et aujourd'hui, quelqu'un qu'on soupçonne d'avoir exécuté le colonel vient dire qu'on l'a torturé. Faut-il en rire ou en pleurer?
Il est encore présumé, c'est la justice qui nous
situe. C'est pourquoi j'ai parlé de soupçons.
Oui, Eric, un complément sur le SCRIC, l'ANR ou bien...
C'est dire que si des agences qui ont différentes fonctions. Mm-hmm. Et quand on parle de SCRIC, c'est surtout des recherches hein, dans la criminalité. Mm-hmm. Vous savez qu'il y a aujourd'hui des groupes de personnes qui arnaquent sur Internet, tout ça. Mm-hmm. Ça, c'est le rôle du SCRIC. Tandis que l'ANR, c'est pour les renseignements. Mmh. Et donc, il y a encore d'autres, hein, d'autres agences comme les renseignements généraux et comme la recherche. Et il y a aussi un autre qui est à la gendarmerie. Mais tout ça, c'est coordonné.
Nous aurons besoin de faire une émission pour rappeler tous ces services-là.
Voilà.
Alors, beaucoup d'auditeurs auraient souhaité que les audiences du tribunal militaire soient rendues publiques, comme en Guinée, comme ça tout le monde suivra, tout le monde écoutera.
Oui, vous savez, ce procès-là, par rapport, justement, on fait une comparaison avec ce qui se passe en Guinée.
Oui,
et
avec Dadis Camara.
Avec Dadis Camara. Ici, il s'agit d'un assassinat qui a été perpétré dans un camp et tous ceux qui sont, là, tous ceux qui doivent passer devant le tribunal aujourd'hui sont encore des présumés coupables.
Surtout des militaires.
Des militaires. En le faisant ainsi, parce que en cherchant à diffuser ce procès-là en direct, c'est mettre aussi une pression psychologique sur ces gens-là. Il faut faire attention. Même s'ils sont présumés coupables, ils ne sont pas encore des prisonniers. Et là, je pense qu'il faut faire attention. Mais ce qui s'est passé en Guinée, c'est qu'il y a eu une manifestation. Les gens ont tiré et on a arrêté des gens. Voilà. Et c'est un peu différent. Mais serait bien quand
merci
même
beaucoup.
Que
alors, un rapide tour de table. L'ami Samira, les auditeurs ne sont pas encore intéressés. Mais ils ne sont pas indifférents à ce forum de la jeunesse, de la jeune fille, qui va s'ouvrir le 27 octobre prochain. Tu nous rappelles l'endroit, s'il te plaît?
Ce sera à CTF Togo 2000.
Et vous attendez qui à ce forum-là?
Nous attendons les jeunes, les parents, les propriétaires même des centres de formation, mm-hmm. et les apprentis aussi.
Vous attendez donc les élèves, les étudiants, les apprentis,
les toutes
personnes,
oui,
les jeunes garçons, les jeunes filles. Il y aura des débats, des conférences,
des panels de formation
autour de la problématique de la prise en charge de la jeune fille dans son autonomisation.
Oui, et je rappelle le thème, c'est la cohésion sociale centrée autour de la gente féminine pour un développement durable.
Encore une fois, et doucement.
La cohésion sociale centré autour de la gente féminine mm-hmm. pour un développement durable.
Merci. Monsieur Aïka, vous, le conciliateur, médiateur, conciliateur de la maison de justice de Bagida, préfecture de Golpe, vous constatez que les gens accordent de l'intérêt à notre maison de justice.
Tout à fait, les gens accordent de l'importance parce mm-hmm. que s'il faut faire les statistiques, nous avons un nombre assez consistant de saisissants.
Mm-hmm.
Donc, on ne peut pas danser et s'apprécier. Mm-hmm. Quand même, nous essayons de mieux faire.
Maintenant, invitez les gens à votre séance de danse et après, on dira si vous dansez bien ou mal. Mais avec votre assistante, Madame Toyi Ablavi, qui va continuer à bien vous assister dans ce sens. Eric Johnson,
oui.
Une minute pour ta conclusion.
Oui, pour ma conclusion, c'est surtout ce forum-là dont tu voulais parler, mais enfin, dont on devrait normalement parler.
Le forum sur l'appel à la sécurité.
Sur l'appel à la sécurité. J'ai commencé par lire un bouquin qui s'appelle L'Afrique malade de ses militaires. Quand vous prenez le Niger, en 60 ans d'indépendance, les civils ont gouverné pendant 23 ans. C'est des coups d'État répétitifs dans ce pays-là. Alors finalement, est-ce que nous sommes en démocratie ou nous voulons tout simplement mettre la démocratie comme un miroir et passer à autre chose et surtout pendant tout ce temps-là, est-ce que ce pays-là, qui est le cinquième pays le plus pauvre du monde, est-ce qu'il y a un développement qui est entamé? Je crois qu'il faut mener la réflexion au-delà de ce que les gens sont en train de dire. Parce que si les pouvoirs militaires devaient mieux marcher, aujourd'hui, on serait très loin.
Merci. Et Sam Diobo,
je vais embrayer sur le sujet que Eric est en train de développer pour parler de la conférence de Lomé sur la paix et la sécurité, pour dire qu'à un moment donné, il faut bien que quelqu'un prenne la responsabilité. Il y a trois pays qui sont dans un espace, mais qui ont maille à partir avec l'espace communautaire, notamment la CEDEAO. Donc il faut au moins qu'il y ait un lead pour permettre aux gens de venir s'exprimer. Mais en même temps, moi je me dis que lors des débats, j'ai entendu la ministre burkinabé des Affaires étrangères dire qu'il faut une démocratie à l'africaine. S'il faut une démocratie à l'africaine, ça dépasse l'entendement des ministres des Affaires étrangères, mais ça devrait être une conférence de tous les chefs d'État d'Afrique pour réfléchir sur la question de la démocratisation de l'Afrique.
Merci. Juste pour dire que nous parlons beaucoup de légalité, de légitimité. Alors dites-moi, dans les coups d'État là, qu'est-ce qu'il y a de légal et qu'est-ce qu'il y a de légitime? Si quelqu'un trouve réponse à cette question, on se retrouve demain au Club de la Presse. Donc rendez-vous demain mercredi à 11h avec d'autres invités, avec d'autres thèmes. C'est ainsi le Club de la Presse au jour le jour. Mais n'oubliez pas, invitez-vous à ce forum où les jeunes filles vous attendent pour débattre de la problématique. Samira, tu nous rappelles le thème rapidement?
La cohésion sociale centrée autour de la gente féminine pour un développement durable.
Ce sera les 27, 28 et 29 octobre prochain.
Canal FM. Canal FM. Soyons pas amers, car on le sait.